atelier avec l'artiste Claire Chénier. Une visite sonore au micro de Julie Chaise-Martin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleurs en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins, la voix des artistes se soulève et fait naître des images.
Et quand on est à l'atelier, de manière très pragmatique, on est dans la caresse tout le temps, quoi. Alors c'est une caresse plus ou moins appuyée, plus ou moins douce. Et comme ces peintures, c'est mon rapport au monde en fait, mon rapport poétique au monde, puis elles m'apprennent beaucoup sur le monde. Et ben, c'est-à-dire que ce que je vis à l'atelier, la manière dont elle réagit, la manière dont elle m'échappe, le rapport à la volonté. Par exemple, quand je suis obligée de déchirer une peinture parce que j'ai eu un geste trop volontaire ou que j'ai pas assez écouté ce qui était en train de se passer. Par exemple, la peinture veut m'emmener dans une voie, j'essaie de la contrarier, ça fonctionne pas. Et c'est exactement comme dans un dialogue avec quelqu'un, quand on l'écoute pas, quand il y a des monologues, ça fonctionne pas.
Naissent des reflets, des paysages, des aubes vermeilles, des sous-bois verts d'eau, des frémissements opaques. Devant les encres de Claire Chénier, le regard se trouble, émotif, curieux. Tout se dilue et s'abandonne dans ces bains abstraits de nuances colorées. Subtil, le vert vire au bleu, qui lui-même accroche le boisé ou le gris vaporeux. Quelque part à la frange d'une lisière floue, le blanc rosé perce d'une lumière émaillée, bientôt caressé par un nuage plus foncé. Les aurores de Claire Chénier peuvent aussi bien être des crépuscules, un début ou une fin, une joie dorée ou une mélancolie ternie. Par-delà la peinture, la liquidité des sentiments affleure, en infimes coulures et en retenues improvisées. Sa technique d'encre coulée, diluée sur du papier, fait éclore des étendues à la beauté silencieuse. Songe profond, imbibé, aussi profond qu'une goutte d'eau puissante, suffit pour créer un monde et pour dissoudre la nuit, comme a pu l'écrire Gaston Bachelard. Devant ses œuvres, je marche avec Claire Chénier dans l'espace d'exposition de l'AA Cité Grisée, qui accueille son exposition personnelle, intitulée « Par espacement et par apparition », encore visible jusqu'au 18 décembre. Je marche à ses côtés, elle me parle de ses peintures, leur rapport à l'écriture, aux vibrations de l'air et des couleurs, aux évocations du sensible, à la suggestion du toucher. Et plus on avance, plus on s'enfonce, on se fond ensemble dans ses horizons. Où que l'on soit, on n'a pas du tout la même vision de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les nuances de couleurs qui jouent avec la lumière. On peut voir soit du bleu foncé, sur la même œuvre. Ça, c'est des contrastes que tu recherches.
Disons que c'est quelque chose que j'attends ou que je désire très fort. Et je ne sais pas si je peux dire que je le recherche vraiment dans la mesure où les couleurs ne sont pas prévues à l'avance. Je prépare une très grande quantité de mélanges différents à ma disposition et je me laisse la liberté de réagir en fonction de ce qui se passe au moment où ça se passe. C'est vraiment un lien, c'est un dialogue. Mmh. Et oui, considérant les couleurs qui changent, je pense que c'est un effet du dépôt évidemment de la matière, mais aussi du dépôt du temps, puisqu'en fait ce sont des surfaces qui paraissent extrêmement lisses, sans empattement. Mon geste n'est pas apparent, il est complètement silencieux et en retrait. Plus les pans de transparence en fait s'additionnent et plus on a une sensation que j'aime bien appeler de profondeur légère ou d'épaisseur de reflet, c'est-à-dire qu'à la fois on a envie d'y entrer et en même temps on est retenu en surface par une grande matité et ça va jamais jusqu'à l'opacité, mais en tout cas on a vraiment une sensation de surface mate, très, très tactile, parfois poudreuse. En effet, les couleurs changent beaucoup parce que tout simplement elles sont toutes liées les unes aux autres. À la fois les premiers pans qui sont parfois des couleurs contraires à celles qui seraient celles dominantes en surface, donc ça vibre du dessous en fait pour nourrir les couleurs de surface. Et puis entre elles, dans le geste même de la couleur, en fait, elles se complètent, elles virent. Je pense qu'elles imagent quelque chose de l'ordre du glissement du regard qui essaie de s'accoutumer à différentes lumières et qui tout d'un coup perçoit une nouvelle couleur parce qu'il y a du temps. C'est à la fois déposé sur la surface et aussi dans le temps que prend le regardeur en fait pour contempler.
Alors tu parles du temps. Et justement, moi, quand je suis arrivée là dans l'espace, il n'y avait personne. J'avoue que c'était un moment, quelques minutes magiques. Je me suis retrouvée vraiment envahie par tes abstractions, puisqu'on ne l'a pas dit, mais ce sont des abstractions. Alors évidemment, comme toute abstraction, on peut y voir plein de figurations.
Bien sûr.
Et c'est vraiment des œuvres qui font voyager l'esprit. C'est vraiment des œuvres pour moi évocatrices. C'est vraiment le mot qui m'est venu, et à tel point que je me suis dit, mais je vais pas arriver à mettre un mot en fait sur tes œuvres. Ça va être très difficile de faire cette interview. Très honnêtement, je trouve ça magnifique, et c'est tellement magnifique que j'ai pas envie de mettre de mots parce que je me dis que ça sera pas à la hauteur en fait de l'œuvre. Et ce qui après intrigue, au-delà de l'émotion qui peut prendre, enfin qui moi m'a prise en tout cas, c'est la technique. Tu parlais du temps. Est-ce que tu mets beaucoup de temps? Parce qu'on se dit qu'il y a quand même une sophistication et une perfection qui tu recherches une sorte d'absolu. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Alors c'est peut-être faux. Hein, tu vas me dire. Mais il y a un peu comme les œuvres peut-être de l'art asiatique qui sont très méditatives comme ça, où il y a à la fois un minimalisme et une sophistication très intense. Est-ce que tu prends beaucoup de temps dans l'atelier pour faire une œuvre, par exemple? Donc ça, c'est des encres, hein, c'est ça?
Oui, ce sont toutes des encres sur papier, oui.
Pour les grands formats,
pour les grands formats, et on a aussi des crayons de couleur sur papier sur lesquels on reviendra peut-être, qui sont de petits formats. Déjà, je te remercie pour ce compliment, parce que pour moi, le fait de sentir la butée des mots contre la peinture, pour dire la peinture, c'est plutôt un compliment très, très fort pour moi, dans la mesure où, évidemment... je peins au lieu où les mots manquent. C'est-à-dire que sinon je peindrais pas. Considérant la technique, je suis toujours très pudique sur ça parce que d'une part parce que c'est quelque chose de très intime, et puis parce que j'ai pas l'impression de maîtriser non pas qu'il y ait pas de maîtrise, mais c'est-à-dire que je suis pas dans un rapport de fabrication d'un produit, mais vraiment dans un rapport de création. Donc il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre vraiment de l'événement pour moi, quand la couleur arrive, de l'ordre du vécu, d'éprouver ce qui se passe. Par contre, oui, le rapport à l'art asiatique, évidemment, me parle dans la mesure où, d'une part, j'utilise l'encre, qui est évidemment un matériau traditionnel. Mais c'est vrai que, alors, au début de mon travail, je l'avais utilisé, je dirais, de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul passage, tout se faisait en une seule fois, comme le soulignait l'unique trait de pinceau, tout doit être là, et c'est un rapport à une discipline, c'est-à-dire que chaque jour, on répète, et on arrive au geste juste. Je dois dire que mon passé de danseuse, on va dire, m'a donné évidemment une discipline qui fait que je vais chaque jour à l'atelier travailler, et en un sens, pas répéter, mais en tout cas rejouer cette expérience, rééprouver à chaque fois, cette relation à la peinture.
Il y a une recherche de perfection ou pas alors ?
Alors le mot perfection et absolu me sont étrangers parce que, je dirais plutôt que je fords de manière très verticale dans une chose qui me tient, mais qui me tient comme un noyau dur, quoi, comme ça va à l'os, quoi. C'est vraiment ce qui me tient. Et donc en ça, il y a quelque chose de très vertical, mais qui n'est pas de l'ordre de l'absolu, puisque j'accueille aussi. Des zones de fragilité, je travaille avec une matière qui, comme je disais, qui m'échappe, donc elle est fuyante, elle est excentrique, elle est capricieuse, elle est indélébile, donc chaque pan d'encre est définitif, que ce soit le premier ou le dernier, même ce qu'on ne voit a priori pas en surface, travaille du dessous, à la manière de lumière de vitrail ou de choses comme ça.
C'est des encres un peu délavées, enfin dans de l'eau, parce que c'est assez atmosphérique en fait. Il y a, oui. il y a quand même, c'est assez vaporeux en fait.
Oui, oui, c'est un travail beaucoup avec la gravité aussi, parce que je travaille à la verticale. Et j'aime bien ce mot de gravité que je préfère à celui de sérieux, par exemple. C'est-à-dire que c'est ce qui nous ancre, si je veux faire encore un autre jeu de mots.
Il y a un moment où il faut s'arrêter. Ça, tu sais le faire?
Et c'est toujours une question délicate parce que moi, je suis moi-même étonnée quand ça s'arrête. Il y a presque un effet de sidération. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me prépare pour... rejouer dans son entier, parce que je rejoue vraiment dans son entier à chaque fois toute la peinture à chaque épaisseur supplémentaire, et puis tout d'un coup je peux pas poser mon pinceau. Et alors il y a plusieurs choses, il y a à la fois un équilibre à trouver entre la matière du papier et la matière qui se dépose, les pigments, la densité pigmentaire qui a une certaine limite, c'est-à-dire à la fois le papier a une limite et puis l'encre aussi. Et puis il y a cette chose très mystérieuse qui est qu'à un moment donné il y a un corps quelque chose d'organique qui crée une présence qui arrête le geste. Je pense que peindre c'est aussi ne pas peindre parfois, parce que il y a presque un effet de trop plein ou de trop peint, à la fois d'un point de vue très physique, matériel, et puis garder cette sorte de fraîcheur d'une présence qui arrive de manière surprenante pour moi d'abord, j'espère après pour les autres.
Ça fait combien de temps que tu fais ces abstractions qui sont à la fois similaires et à la fois très différentes, évidemment, chacune, quand même toujours dans la même esthétique?
Ça fait une bonne dizaine d'années. Je pense que j'ai abandonné les huiles, les toiles, le corps figuré et toutes ces choses pour l'encre et le papier qui sont aussi pour moi intimement liés au rapport à l'écriture. Et oui, c'est-à-dire que ça change à chaque fois, et en même temps c'est sur un horizon qui se dégage et qui se tisse. Tout en se faisant, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de vue de ce que ça va devenir.
Oui, tu ne travailles pas avec une idée de série, par exemple.
J'ai aucune idée pour peindre.
D'accord.
mais d'ailleurs, ça me permet peut-être de rebondir sur cette notion d'abstraction, parce que évidemment, elles sont abstraites. On pourrait, si on veut les décrire, on pourrait dire que ce sont des champs colorés. Pour moi, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas, comment dire, de ma part une intention de faire abstrait. C'est comme si ça arrivait après coup, par le fait que je me focalise sur le corps de la peinture plutôt que sur le corps figuré. Mais il y a de la figuration, on pourrait dire, qui est au travail avec la matière elle-même, qui donne des évocations multiples, et comme tu me disais... Pour moi, c'est vraiment un compliment, c'est qu'il y a quelque chose d'ouvert, où justement, parce que ma présence est silencieuse d'un point de vue du geste, ça laisse, j'espère, au spectateur la possibilité de rentrer dans ces espaces colorés avec son propre regard.
Et alors justement, si on rebondit sur le titre de l'exposition, qui, donc, par espacement et par apparition, au pluriel, hein, les deux, espacement au pluriel, apparition au pluriel. Tu parlais d'espace, et c'est vrai qu'il y a aussi cette notion d'apparition. On pourrait presque dire que c'est l'aube qui apparaît.
Oui, oui. Ben, c'est-à-dire que ce titre concentrait pour moi beaucoup de choses par rapport à la manière dont la peinture m'arrive. C'est-à-dire que l'espace entre deux peintures, c'est aussi des moments de levier... tu vois, là, on est dans ma première exposition personnelle à l'art. Et je sais que ce temps où les choses sont au mur va être un temps particulier pour moi aussi, où ça va se déposer, où ça va décompter. Et puis par apparition, parce qu'évidemment, ce qui apparaît sur la surface du papier est coïncident à la matière, qui est tout en glissement d'eau, en glissement d'encre. Et donc, quand il y a du glissement, il y a du passage. Et le passage, c'est un peu la levée vers le visible, vers que ce soit d'ailleurs la lumière dans l'ombre, que la lumière plus marquée. Enfin.
Apparition, ça peut, c'est aussi un terme qui est quand même lié à la religion, à la révélation. Est-ce que tu as un rapport un peu mystique, on va dire, à la peinture?
Alors, j'ai pas de rapport au sacré ou à la religion, mais je pourrais dire que je suis une mystique de la peinture. Voilà. Oui. Enfin, mais après, je me méfie de ces termes-là parce qu'ils peuvent être très chargés et très galvaudés aussi. Mais oui, on peut dire ça. J'ai pas trouvé mieux parce qu'il y a quelque chose. Quand on parle de révélation, on pense aussi au sens très chimique d'une révélation, le bain révélateur photographique. Et physiquement, mes papiers, ils sont trempés, ils sont détrempés. Le moment où l'encre sèche est un moment de révélation pour moi, parce que la couleur change, elle continue de se déposer en séchant. Et puis c'est ce qui apparaît aussi dans ce dialogue, comme je disais, mais parce que moi je suis dans un rapport, bien que ce soit abstrait, dans un rapport très tactile, très charnel en fait à la peinture.
Tu parlais du rapport à la photographie, c'est vrai que on pourrait aussi penser que c'est presque des photographies. Parfois, cet aspect un peu, il y a un aspect un peu brillant. Alors peut-être plus d'ailleurs sur les petits formats qui sont au crayon de couleur. Je ne sais pas, j'ai presque cru moi au début quand je suis rentrée que c'était des plaques de métal.
C'est sûrement le dispositif d'accrochage, puisqu'en fait les papiers sont tous marouflés sur Dibon. Qui donne cette ambiguïté de surface où le Dibon est plutôt apparenté à la photographie. Mais je dois dire que moi, j'ai pas de rapport au photographique, bien qu'il y ait plein de photographes que j'adore, hein, mais j'ai vraiment un rapport de peintre. Mais l'ambiguïté de surface vient du fait que, en effet, on ne voit pas mon geste, la surface est lisse, elle paraît très fine, alors qu'elle est évidemment chargée d'encre. Pour moi, les encres sont plutôt très mates. Est-ce que tu perçois comme peut-être légèrement luisant? Sur les crayons de couleur, ça me semble assez normal, puisque les crayons de couleur, c'est à base de cire. Ouais. Et donc, on a un rendu plus crayeux, plus cireux, où le geste est plus apparent. C'était une manière pour moi de ramener du geste, de ramener du corps, et dans quelque chose d'assez contrarié, parce qu'on a toujours cette sensation de paysage qui arrive, mais en même temps, on est toujours à la verticale. Le crayon est censé... dans le dessin, c'est quand même un acte très volontaire qui laisse une trace très déterminée, qui scinde les choses, qui divise. Et là, je travaille le crayon de couleur comme des nuées, comme des nimbes ou des sortes de vapeurs, de brouillard qui se dispersent sur l'ensemble de la feuille par répétition d'un geste un peu envolé, comme ça, un peu agité.
Oui, là, on est baigné, hein, on voyage dans un horizon. C'est presque encore plus parlant, peut-être dans la grande salle, si on fait quelques pas. Puisque là, en fait, il y a plus de couleurs.
Oui, oui, il y avait la volonté de commencer avec des choses plus ténues, avec une gradation qui va du bleu à une espèce de terre transparente et puis qui commence à rougeoyer, et on a un point culminant qui est la peinture centrale au fond de la grande salle, qui a des tonalités qui tiraillent et qui sont plus stridentes, avec des rouges, des violets, des parmes, et puis cette espèce de phosphorescence un peu blanchâtre, cyan, et qui est assez inédite dans mon travail.
Cette couleur-là.
Peut-être que d'une certaine manière le ciel s'est dégagé, qu'il y a quelque chose de la charge d'encre qui... Parce qu'évidemment la densité pigmentaire est plus forte en bas, hein, puisque je travaille avec la gravité, comme je le disais. Alors dans mes travaux précédents, c'est vrai qu'on avait souvent cette sensation plus évaporée en haut, avec une charge d'encre qui montait assez haut, une part d'ombre assez forte. Et là, les niveaux d'encre, on va dire, si on veut parler de ligne d'horizon, de seuil, de lisière dans la partie qui est une sorte de frange où on voit, oui, comme tu disais, cette espèce d'aube qui pointe, est plus variable. On a des choses parfois plus basses, plus hautes. Et c'est vrai que je cherche maintenant à ce que finalement cette partie qu'on pourrait appeler le supérieur, qu'on pourrait appeler le ciel, soit aussi dense que la partie basse qui serait plus terreuse, plus sèche.
Alors évidemment, nous, on peut par exemple y voir des paysages, puisqu'on parlait de ciel, d'aube, de ligne d'horizon. Toi, tu y vois quoi dans tes peintures?
J'ai pas d'image définie. C'est pour moi, c'est aussi mouvant que l'œil qui glisse et qui n'a. Il n'y a pas d'accroche dans mon tableau, si ce n'est cette fameuse lisière qui vibre, qui fait la jonction entre, on va dire grossièrement, un espace plus sombre et un espace plus clair. J'ai pas d'image prédéfinie, mais ça m'évoque plutôt des sensations. En fait, moi, je suis très synesthésique, donc je peux même entendre beaucoup de musique ou en voyant les couleurs ou avoir une sensation d'amertume ou de sucré ou de enfin voilà, les choses se mélangent beaucoup pour moi. C'est avant tout tactile peut-être. Je crois que c'est peut-être la première chose pour la peinture. Je crois que c'est vraiment un rapport au toucher, à comment toucher, comment être touché. Je pense que j'y vois aussi du paysage, mais peut-être une sorte de paysage intérieur. Alors j'aime, en même temps, ce qui m'embête dans le mot paysage intérieur, c'est que ça crée une espèce de clôture sur soi, alors qu'il me semble qu'on a quand même affaire à des sortes de fenêtres.
C'est vrai.
Même si je sais que c'est une image très, très, très ancienne et utilisée.
Incontournable.
Voilà, on absolument y revient toujours. Incontournable, mais je crois que c'est quand même ça, c'est que mon rapport à la peinture, c'est un rapport à l'ouvert. Et d'ailleurs, les titres des peintures qui n'en sont pas, ce sont les dates du jour. Et j'aime bien la polysémie du mot jour, parce que c'est aussi l'entrebâillement, la légère ouverture, l'embrasure, faire jour. C'est peut-être aussi un rapport à tout simplement à notre vision, à faire une sorte de mise au point. Parce que peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a des choses vaporeuses, mais aussi des choses qui paraissent un peu floues. Et avec le geste de la couleur, des raies lumineux ou des sortes de fréquences qui paraissent, elles, plus nettes. Et l'œil a sans arrêt une sorte de balayement sur la surface où il doit faire la mise au point. Et de manière plus générale, c'est-à-dire que la position que j'ai par rapport à cette matière qui est forcément une altérité, c'est un peu peut-être gros de le dire comme ça, mais forcément, elle est dite très différente, en tout cas de moi. Le fait que je sois en retrait et qu'en même temps je sois toujours là pour l'accompagner, réagir et questionner ce rapport au toucher, à comment aborder la surface, me questionne sur mon propre positionnement par rapport au monde, par rapport aux êtres, à mes contemporains, à notre société.
Et justement, quelle place tu aurais, toi, en tant qu'artiste peintre, dans cette société?
C'est une vaste question. Une place très humble, je pense. Je crois que ce qui se joue, c'est pas dans ma personne, c'est dans ce que je peux exposer là.
Alors justement, quand tu vois tes œuvres exposées dans un espace dédié, qui est évidemment un espace plus impersonnel que ton atelier, ici par exemple, quelle émotion t'as eue particulièrement dans cet espace qui est quand même assez beau, hein, là
très beau,
très très, ouais. Très aérien, et justement, tes peintures lévitent un peu là en ce moment.
Ben, en fait, je suis très heureuse parce que mes peintures, je ne peux pas les voir toutes comme ça à mon atelier. Elles ne sont finies que quand elles sont montées sur Dibon et encadrées. Donc là, je les vois avec leur corps. Elles ont une qualité d'objet légère, discrète, mais quand même, qui leur donne une vraie présence. Et puis, on a ici une qualité de lumière du jour qui est merveilleuse. C'est plutôt comme si toutes mes peintures cherchaient à rejoindre un lieu comme celui-là, un lieu de lumière, et à être ensemble aussi, parce que, encore une fois, je ne les vois pas ensemble. Et ce que j'aime dans une exposition, c'est pouvoir aussi créer, on parlait tout à l'heure, ces rapports d'espacement et d'apparition, c'est créer des rythmes. Je pense qu'il y a vraiment deux choses primordiales dans la peinture, c'est la tactilité et le rythme. J'espère qu'on a des approches sensuelles, sensibles, différentes, avec des rythmes et des sortes de fréquences presque lumineuses dans ce parcours, dans cette exposition.
On revient presque à la danse, entre le toucher, le rythme,
oui.
la cadence.
Oui, oui. Je donne souvent cette image des vagues, parce que de fait, je travaille avec une grande abondance de liquide. Donc j'ai vraiment cette sensation que ces glissements d'eau sont presque comme des vagues qui vont et qui viennent sur le papier. Et pour moi, quand on regarde par exemple l'océan, on a l'impression que les vagues se font et se défont, et qu'elles disparaîtraient dans une sorte d'oubli. Alors qu'il me semble que justement ce rythme crée déjà une étendue, crée déjà quelque chose pour nous, si on parlait de paysage intérieur. De la même manière, dans ma peinture, rien n'est oublié. C'est plutôt un enlacement du fond vers la surface, de tout ce qui peut passer sur ce papier.
Il y a le ressac aussi.
Exactement. Et d'ailleurs, il m'arrive, ça me plaît pas toujours, mais d'avoir ce que j'appelle souvent des fantômes, c'est-à-dire des remontées ou des revenances de couches précédentes, mais plus hasardeuses, à la surface. Et d'ailleurs, quand je donne l'image des vagues, je ne pense pas qu'à de l'eau transparente. Je pense aussi au mouvement des vagues qui fait remonter du limon, de la vase, des algues, et qui donne sa couleur et sa beauté aussi aux vagues.
Et sur la couleur, justement, il y a quelque chose du mystère de la couleur qui te fascine ?
Oui, c'est... Alors, je dis souvent, je ne suis pas coloriste. Moi, je travaille surtout la lumière, en fait, l'intensité, les rapports d'intensité.
Mais la couleur est lumière.
Donc, de fait, je suis en plein dans la couleur. Ce sont des bains colorés. Oui, c'est-à-dire que la manière dont je les travaille, tout en passage et en ambiguïté, en un sens, me permet peut-être de toucher un peu au fait que la couleur, on ne peut pas la dire. Là, si je devais donner un nom à cette sorte de marron violacé qui, juste au moment où je le dis, vient de virer au bleu, au vert, on est justement dans la beauté du langage et c'est certainement une des propriétés de la peinture que d'échapper à cette description.
Oui, moi je pense que ce qui est très beau, enfin, du point de vue de la peinture, c'est que justement, on est presque, enfin, tes abstractions qui sont grandes pourraient presque être des gros plans, macro-plans sur les nuances de couleurs que peuvent réaliser les peintres quand ils sont à la lisière entre deux couleurs et que le champ de la couleur doucement change pour arriver à une autre couleur, en fait. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée.
Ah, mais c'est, oui, c'est, mais... ça me passionne. Mmh. Les moments de passage, en fait, de liaison, parce que on sent à la fois l'intensité de chaque couleur et en même temps, il se crée une sorte de troisième couleur qui est qui est ce moment où les choses virent, où elles changent, où elles vivent d'une liaison qui vient d'être faite entre deux choses.
Et ça, c'est aussi ce qu'on retrouve, ce que je trouve assez beau chez Rothko, par exemple.
Mmh. Oui, oui. Oui, chez Rothko, on a ça, et on a aussi une sensation de presque de décollement de la matière pigmentaire qui vibre quasiment en surface.
Ça, j'imagine que voilà, les grands peintres américains qui ont fait toutes ces abstractions, et notamment plutôt Rothko, pour ton travail, en tout cas, c'est le nom qui m'est venu à l'esprit assez rapidement.
Maurice Louis aussi, plus lointainement Kenneth Noland, mais oui, c'est évidemment les abstraits américains d'après-guerre ont été importants, et en même temps, cette peinture, elle est vraiment arrivée dans un cheminement où j'ai dû repasser moi-même par toutes les questions très conventionnelles que se posent toutes les peintres, je pense. Et donc j'ai commencé par la figuration, j'ai évacué le corps figuré pour rentrer dans la couleur, et en effet, il y a certainement une sensation de plongée par ce resserrement presque micro ou macroscopique, ça dépend, en fait les deux sont possibles, mais c'est peut-être le propre de l'abstraction aussi, qui est que c'est abstrait, ça n'est pas abstrait, ça pourrait être en fait un détail de ciel, un détail de mer, un détail de poussière, de ce qu'on veut.
De mur, de... Oui.
Ouais.
Il y a un mot que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellée, tu as prononcé le mot caresse.
Mm-hmm.
Ah, il y a ce rapport aussi très très intime à la matière là pour le coup.
Oui oui oui. Oui, ça, enfin, en tout cas, tel que je le vis, ça peut pas être autrement.
Beaucoup de douceur, en fait, aussi. Dans...
Oui, alors la caresse, elle est peine variable, mais en tout cas, c'est le fait de pouvoir ouvrir un espace de relation, de liaison, par le toucher. Et de fait, un peintre, en tout cas, qui utilise des pinceaux, des brosses de manière traditionnelle, mais même d'ailleurs des peintres qui n'utiliseraient pas ça. Je pense qu'on est dans un rapport très tactile. En ce qui me concerne, c'est pas un hasard si les formats sont à la fois grands et pas grands. C'est-à-dire qu'ils sont à mon échelle.
C'est vrai.
Ils font à peu près 1m70 par 1m40 de large. Et en fait, ce sont les dimensions qui me permettent d'embrasser la surface d'un seul geste. Tout en gardant une grande régularité dans mon geste, qu'il n'y ait pas de heurts et de déplacements à faire. Donc c'est à la fois un format humble et généreux, puisque on peut rentrer dedans, enfin on se sent compris dedans en tout cas. J'espère que ça peut être un espace assez enveloppant. Et il y a quand même une résistance, parce qu'on sent quand même la surface. Il me semble qu'il y a les deux. Quand je présentais mes peintures, par exemple, à la Galerie du Jour Agnès B, ou à l'Art dans les Chapelles, ou à la Banque de Béthune, à l'horizontale, sur des socles, au départ, j'avais imaginé que ça créerait des puits de couleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est là que m'est venue cette sensation d'épaisseur de reflet, c'est-à-dire qu'on est maintenu comme en étau dans un reflet, quoi. C'est-à-dire que c'est mince et en même temps, ça résonne, et ça se diffracte et ça se disperse dans tous les sens, quoi. Pierre Vatt, qui a écrit le texte de cette exposition, quand il est venu à mon atelier, avait parlé d'écran de lumière, et c'est vrai que je peux comprendre cette analogie. Et en même temps, pour moi, ça, évidemment, comme je travaille le papier et que je le vois gonfler, prendre l'eau, s'étirer, bouger, c'est plutôt une peau pour moi.
Tu disais d'ailleurs que le rapport au papier, c'était important pour toi parce qu'il y avait un rapport à l'écriture.
Oui.
Est-ce que, voilà, il y a des textes, des poètes, des écrivains qui t'ont particulièrement inspiré?
Est-ce que c'est quelque chose... tellement. La poésie, c'est vraiment. Je lis des poèmes depuis toujours et je tiens des carnets depuis toujours. Peut-être pas le premier que j'aurais cité, mais je pensais au livre de l'intranquillité de Pessoa, pardon, parce que je me disais que les choses arrivent aussi dans cet espace intranquille où ce qui est vivant, c'est ce qui s'agite, quoi. Quand je peins, comme je disais, je rejoue à chaque fois la peinture dans son entier, jusqu'à risquer en fait l'enfouissement des couleurs, la boue, l'illisible. Mais c'est dans cet espace, je dirais, intranquille, que la lumière advient finalement, le vivant.
Merci beaucoup Claire.
Merci Julie.
Claire Chénier, merci.
Vous pouvez retrouver Claire Chénier sur son site internet et sur son compte Instagram, évidemment, mais surtout découvrir ses œuvres dans son exposition « Par espacement et par apparition » qui se tient encore jusqu'au 18 décembre à l'AA Cité Grisée à Paris. Prochainement, du 6 janvier au 13 mars 2022, elle sera aussi exposée à la galerie ETC à Paris dans une exposition où elle invite à ses côtés, en dialogue, les œuvres du peintre Denis Lager. C'était à l'atelier avec Julie. Je vous retrouve très prochainement pour un autre podcast, une émission que vous pouvez découvrir sur le site d'Art District Radio, en diffusion et en podcast.